Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, compte légendes, histoires, nouvelles, blagues. Aujourd'hui, on va parler du plus petit commun dénominateur à tout ça. C'est quoi ça? Vous vous rappelez hein, ces souvenirs de classe et on avait 7 huitièmes et 3 quarts à ajouter. Il fallait trouver le plus petit commun dénominateur. Mais le plus petit commun dénominateur, c'est le mot. Vous me direz non, c'est la lettre. Certes, on peut aussi diviser encore en lettres toutes ces choses-là, mais alors ça n'a plus de sens. C'est de la matière brute. Et après, on écrit, on dit, on pense des mots. C'est pas des lettres que l'on pense. Ce n'est même souvent, il y a des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas comment les choses s'écrivent, et qui pourtant peuvent très très bien s'exprimer. Le mot est important. Sinon, on est largué, le mental est largué. D'ailleurs, il existe un exercice de méditation pour dépasser cet attachement aux mots. Vous savez, on a une sorte de discours intérieur qui nous permet de nous raccrocher à la réalité. Et ça peut être, disons, une limitation pour celui qui veut se libérer au-delà du langage. Ouh là là, c'est vertigineux. Et à ce moment-là, on fait cet exercice qui s'appelle la guirlande de lettres. C'est-à-dire qu'on s'assied tranquillement, on laisse venir les pensées, et petit à petit, tout ce qui est pensé et redécoupé en lettres. Tiens, je vais le faire en direct, là, on va voir ce que ça donne. N-O-N L-E-S A-U-D-I-T-E-U-R-S V-O-N-T C-H-A-N-G-E-R D-E-S-T-A-T-I-O-N. Ok, bon, j'arrête. Vous avez compris, hein, si vous avez suivi. Ma pensée, c'était, non, les auditeurs vont changer de station si je fais ça trop longtemps, c'est vrai. Mais quand on fait cet exercice, le mental ne suit plus, petit à petit, il en a assez des lettres, et on arrive à ce territoire neuf, peu connu, où le langage est dépassé. Et l'esprit n'existe plus au travers d'un discours, d'une suite de mots, mais dans l'espace entre les mots. Dans le silence, la piste d'envol de l'esprit libre enfin de tout support. Bon, ça c'est vertigineux. Vertigineux, mais ce n'est pas quelque chose de très radiophonique. On écrit, quand même, il faut le dire, sur une page blanche. Et on parle sur du silence. Hein. Chaque mot, finalement, apparaît comme la partie émergée d'un iceberg. C'est l'agglomérat de lettres, ça c'est la partie émergée, qui renvoie à la partie immergée, invisible, mais qui correspond à la réalité vécue auquel le mot fait référence. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je vais prendre un exemple. Caresse, tiens, le mot caresse. Ce n'est pas parce que ça s'apparente à un effleurement que le ressenti reste superficiel. Caresse. Le mot caresse peut nous toucher très profondément. Tu veux que je te caresse? Alors que, au hasard, tiens, le mot caténaire, par exemple, il n'impactera que peu nos émotions. Il est un peu gros dans sa partie émergée et sa partie immergée, ma foi, les moins. Bon, sauf si on habite Tarnac. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, où est-ce que je veux en venir? Oui, je pense que vous vous posez cette question. Mais parler des mots, tout simplement. de tout ce qu'on peut, qu'on veut, ou même qu'on tente de leur faire dire. Et en ce moment, nous avons en direct l'exercice délicat et magnifique de cet art subtil de la démagogie, l'art d'embobiner le peuple. Il est fortiche, le bougre, hein. Ils nous ont fait le coup de la campagne présidentielle. Je vous ai compris. Bon, ce sont des vieilles rengaines. Tous l'ont fait, hein. Ce n'est pas le premier. Mais c'est du reste le principal rôle des hommes politiques. Faire tampon entre la violence d'un ordre social et ceux qui en sont victimes. Éviter le pire, on peut dire. Il sert à quelque chose. 1789 a été un très fort traumatisme. Sitôt qu'on a quelques privilèges, on cauchemarde en voyant sa tête fichée sur une pique et trimballée par une horde de sans-culottes. Heureusement, le grand art de l'homme politique est d'éviter ça à ceux qui l'ont généreusement soutenu pour cela même. Il mouille la chemise, le bonimenteur en chef. En ce moment. Tiens, arrêtons-nous sur ce mot, bonimenteur. C'est celui qui ment bien. Vous me direz que je suis bien placé pour en parler, puisque finalement, les conteurs sont des bonimenteurs. Et c'est vrai. Ils mentent bien. Et ils vous racontent une histoire sans queue ni tête et vous y êtes suspendu à ses lèvres, vous suivez l'histoire, vous avez des émotions. Oui, c'est vrai, mais bon, il fait ça pour s'amuser, pour distraire, pour divertir, pour faire réfléchir à la rigueur, mais pas forcément pour vous proposer une manière de vivre des choix de société. Là, notre bonimenteur en chef est fort, faut le dire. Il décrit notre souffrance avec les mots justes. Il l'a bien comprise. Il va s'en occuper. Il s'en occupe déjà, à vrai dire. D'ailleurs, toutes ces réformes n'ont qu'un seul but : rendre le peuple français plus riche, plus libre, plus heureux. Donc, pour ça, bien, il faut baisser les impôts et les taxes qui nous accablent, hein. En conséquence, il faut, dans un premier temps, réduire la dépense publique. Logique. Donc, le grand débat consiste, au fond, à choisir nous-mêmes, là où on veut mettre moins d'argent. Donc, à choisir les services publics à sacrifier en premier. C'est ce qu'on appelle TINA. Vous vous rappelez peut-être Margaret Thatcher? TINA, c'est quoi ça, TINA? C'est... There is no alternative. Il n'a pas le choix. C'est comme ça. Un philosophe canadien parle de ça dans un livre qui est sorti il y a peu, qui s'appelle « Faire l'économie de la haine ». Il s'agit d'Alain Deneau. Et bon, dans cet ouvrage, il défend une vision d'un système tentant par tous les moyens de dissimuler le vrai coût humain, social et écologique de son fonctionnement. Derrière la fiction angélique d'un système qui semble indépassable se cache en réalité une censure profonde, originale, qui ne vise, selon ses propres mots, qu'à faire l'économie de la réalité haineuse de l'économie. Et pour ça, les mots sont importants. J'en ai déjà parlé un petit peu à cette antenne lorsque je parlais d'un certain Franck Lepage qui fait des conférences gesticulées et qui nous dit les mots, on les remplace. Il y en a qui disparaissent. Par exemple, le mot prolétariat, le mot exploitation, ce sont des mots qui ont disparu. Notre philosophe canadien parle de cela. Il dit, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de citoyens. Les citoyens n'existent que de pure forme. On est salarié, on est électeur, on est consommateur. On est toujours dans un rôle prévu par un dispositif de gestion. Quand peut-on alors, comme citoyen, prendre le dessus sur ce cadre et délibérer sur celui-ci? La réponse est TINA. C'est comme cela. On n'a pas le choix. Le monde fonctionne ainsi. Mais jamais les acteurs au pouvoir ne présentent ces contraintes mondiales, cette concurrence étouffante et au bout du compte tous ces impératifs comme étant de l'ordre de leur bilan. C'est leur idéologie qui a voulu que le monde soit ainsi façonné. Mais pourtant, cette idéologie n'est jamais assumée par ceux qui présentent ses conséquences comme étant naturelles ou quasi divines. Elles sont le fruit de choix, en fait, qui ont été intégrés dans des considérations managériales. Dès lors, la prise de conscience n'est plus possible. Les peuples n'ont progressivement plus d'emprise sur ces enjeux. Et, il faut bien le reconnaître, le grand débat national se situe bien dans ce cadre. Par exemple, on va nous dire qu'il faut faire des économies, hein, et or, si on regarde par exemple le rapport de l'Oxfam 2019, les 8 premiers milliardaires français possèdent autant que les 30% les plus pauvres. Et comment se fait-il que dans le monde, la fortune des milliardaires en 2018 a augmenté de 12%, alors que la richesse de la moitié la plus pauvre de la population mondiale, soit près de 4 milliards de personnes, a chuté de 11%. Comment se fait-il qu'en France, les 5% les plus riches détenaient 40% des richesses nationales en 2018 et 1% en détenait 20% de la richesse nationale? Et comment se fait-il que depuis la crise financière de 2008, on pensait qu'il avait fallu se commencer à se serrer la ceinture, le nombre des milliardaires a presque doublé? Et comment se fait-il que les grandes fortunes dissimulent environ 7 600 milliards de dollars aux autorités fiscales et l'évasion fiscale des multinationales prive les pays en développement de 100 milliards de dollars chaque année? Ou pour voir, tous ces chiffres font tourner un peu la tête. On peut dire que oui, mais ça c'est l'évolution. Pourtant, la responsabilité des gouvernements est sans équivoque. Loin de s'attaquer aux inégalités, ils les aggravent. Dit Pauline Leclerc, porte-parole de cette association, l'Oxfam, qui étudie la richesse au niveau mondial et son répartition. Ils sous-financent les services publics et renonce à taxer et à combattre l'évasion fiscale. Ainsi, quand les gens protestent contre les taxes, contre les impôts, les gouvernants disent « Mais oui, vous avez raison, on va les baisser. » Et ce qui se passe, c'est que tout simplement après, on dit « Eh bien, il faut choisir quel service public vous voulez garder. » Tina, il n'y a pas d'alternative. Devant cette situation quand même un peu scandaleuse, il y a des choses qui se passent. Il y a les sans-culottes d'aujourd'hui qui ont des gilets jaunes. Et c'est normal, c'est trop. Et quand on n'a plus rien, on fait quelque chose. Quelle est la réponse du gouvernement? Vous me direz, c'est le débat. Oui, mais avant, ça a été quand même, précisons-le, la violence. On n'avait jamais dénombré autant de blessés en aussi peu de temps. Là, on est à environ 100 blessés graves par les armes de la police, 4 mains arrachées, 14 qui ont perdu un œil. Je crois qu'il y en a encore eu ce week-end des nouveaux, parce que ça, ces chiffres datent de la semaine dernière. Bref, on est quand même toujours dans la même rengaine, la carotte et le bâton. Mais heureusement, on va échapper au pire. Le pire, ce serait le scénario de science-fiction cauchemardesque habituel où on voit des robots, des drones, qui contrôlent une population de plus en plus, on va dire, soumise, exploitée et sans aucune liberté. On échappera à ça, je l'espère, parce que on est arrivé un peu au bout. Il y a la nature qui en peut plus, il y a la biodiversité qui s'effondre, tout un tas de signes, l'eau qui est polluée, bref, ce que certains biologistes appellent un Armageddon écologique. L'Armageddon étant le nom, je crois qu'on trouve dans la Bible, pour désigner une espèce de fin du monde. Et de ce fait, les peuples de la Terre, et surtout les jeunes, comme on le voit maintenant, vont dire stop. Et plus personne ne pourra leur dire qu'ils sont catastrophistes. Ce que nous, nous sommes entendus dire depuis les années 70. Mais vous êtes catastrophique. Bon, là, c'est commencé. C'est un peu l'image d'une feuille morte. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait « Notre civilisation est comme une feuille morte qui s'est détachée de l'arbre. Elle descend lentement, portée par le vent. Elle croit encore que tout va bien, mais c'est déjà une feuille morte. Elle va tomber au sol. Oui, notre civilisation dite moderne est morte. Dès le départ, elle n'était pas viable. Beaucoup l'ont dit. On ne les a pas écoutés. Et conclusion, les 40 milliardaires qui détiennent 60% de la richesse mondiale, les 25 multinationales qui produisent 70% des gaz à effet de serre, enfin, tous ces États ou même, on va dire, de profiteurs sans scrupules, ben, ils vont voir se lever la jeunesse de tous les pays. Ça a commencé, les étudiants, les lycéens, les collégiens, les écoliers même vont faire la grande grève du climat, vont dire « on se soulève parce qu'on veut survivre » et tous les peuples du monde vont dire « on est là » et les gilets jaunes seront avec eux et les printemps arabes et même les policiers et les CRS et les soldats diront « on ne va pas tirer sur nos enfants » et alors les 10% qui voudront encore continuer cette course folle bon, apparaîtront bien comme des charognards qui ne veulent pas lâcher leurs morceaux. Et ils seront bien seuls. En fait. Bon, le problème, c'est que ce sera le chaos. L'effondrement de tout ce qu'on croyait éternel. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais il y a quand même ceux, ils sont de plus en plus nombreux, qui ont compris que le partage, la solidarité, la simplicité, l'amour aussi, sont les conditions mêmes de notre survie. Et ceux-là feront ce qu'ils peuvent pour localement, humainement, joyeusement, survivre ensemble. Ce ne sera pas facile. Il faudra se contenter de peu. Et on risque même de tous passer. Extinction. Mais bon, ça repartira. Quand tous les pesticides, la radioactivité aura baissé, les poisons se seront dégradés, bon, dans des centaines de milliers d'années peut-être. Mais alors, il ne faudra pas oublier. Nous ne sommes pas des êtres humains sur une planète. Nous sommes une planète, une Terre. Nous ne sommes pas des individus qui devons réussir notre vie comme on nous le fait croire. Nous sommes tous reliés et reliés à tout. Nous sommes un. Nous ne sommes pas des êtres humains qui expérimentent l'univers, mais l'univers qui expérimente des êtres humains. Tous ensemble, dans le même bateau. Alors, compétition, lutte pour la vie, que le meilleur gagne, les premiers de cordée, la société du mérite, toutes ces fadaises inventées par ceux qui en veulent plus pour leurs pommes. Eh, on se dira, mais comment on a pu y croire un seul instant. Et là, arrivera un nouveau mot dont j'ai peut-être parlé déjà à cette antenne. Ubuntu. Oui, j'en ai parlé parce qu'on m'a offert un livre, c'est à ce que je voulais revenir, les mots qui nous manquent, Ubuntu, un mot qui nous vient d'Afrique du Sud. J'existe parce que tu existes, parce que nous existons tous. De la fourmi au cosmos tout entier, en passant par la poussière, l'abeille, le chant des oiseaux, les océans, le plancton, tous les microbes et les rêves des poètes. Alors, mettons nos gilets, jaunes, verts ou bleus, et nos cœurs grands ouverts, sortons dans la rue, dire « ça suffit maintenant ». On ne croit plus à votre monde de lutte sans fin. On va se donner la main pour faire chanter demain. Ça rime en plus. C'est déjà un heureux présage. J'avais dit que je parlais des mots, mais j'ai beaucoup enfilé de mots les uns aux autres. J'espère qu'il en restera quelque chose. C'était Marco, compte à rebours. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.